Bonjour, vous écoutez bien Radio Canus, 102.2 MHz, la plus rebelle des radios, le Canu Info de ce lundi 4 août 2014, avec Jean-Pierre dans les studios, Robert en duplex pour évoquer toute l'actualité. Le 4 août, c'est aussi une date commémorative, mauvaise pour les Belges, deuxième jour de la guerre, entrée des Allemands dans le pays il y a un siècle, et puis 1789, ça aurait pu être une bonne nouvelle, mais qui a sans doute été un petit peu gâché dans l'histoire de la Révolution française.
Hein. Et oui, ça fait 225 ans que on va pas faire la fine bouche. Hein. C'est les prémices d'une révolution qui allait ensuite s'approfondir. Avec la chute de la monarchie et puis ensuite avec l'établissement d'une république sociale que certains ont baptisé dictature, avec Robespierre, Saint-Just et les autres, et qui finalement a tourné court avec l'arrivée effectivement d'une droite bourgeoise au pouvoir et puis ensuite Bonaparte qui s'installera durablement. Enfin, 4 août 89, j'ai le souvenir, je ne sais pas si tu as ce souvenir dans les livres d'histoire de notre époque, c'est-à-dire école primaire, voire cours du secondaire, c'était présenté comme un élément important de la liberté et de l'égalité, ce qui effectivement... C'était un peu prématuré, n'est-ce pas ?
Oui, c'était l'abolition des privilèges officiellement, mais pratiquement comme on n'a rien aboli du tout. Ça n'a pas porté à conséquence, ça faisait plaisir de le dire.
Ça aurait pu être la révolution des paysannes, peut-être, parce que c'est les paysans d'ailleurs qui, avec beaucoup de sacrifices, beaucoup de révoltes, avaient finalement poussé les choses à rompre avec le système féodal. Oui. Mais finalement, après, on ne peut pas dire qu'ils aient pris le pouvoir.
Le pouvoir,
ça aurait peut-être été formidable.
Il aurait peut-être fallu appliquer le programme de Robespierre, auquel cas on serait peut-être venu effectivement un peu plus à bout des privilèges. Allez, on replonge dans l'actualité récente avec la Palestine où la guerre continue. Qu'est-ce qui arrêtera Netanyahou ? Qui, quoi, trace ce matin une trêve annoncée qui n'a pas plus duré ni fonctionné que les autres ? Des morts palestiniens encore aujourd'hui. Et puis une situation internationale un peu bloquée comme elle l'était il y a une semaine. Quoi. Ça fait maintenant plus d'un mois que ce conflit dure. On est à 2000 morts du côté des Palestiniens, à 64, paraît-il, du côté des militaires israéliens. Les bombes continuent de tomber. Quoi. Voilà, tu voulais dire quelque chose sur... l'aspect international du conflit.
Oui, surtout comment ce conflit est vécu sur les autres continents de la planète. Et on est toujours surpris parce qu'effectivement, la presse occidentale et la presse française, la première, fait le blackout total sur comment ce conflit est vu en Amérique latine, en Asie, en Afrique. En Afrique, on sait un peu. Parce que l'Afrique francophone, parce qu'il y a quelques petites informations qui remontent. On sait que l'Union, par exemple, qui est une institution, l'Union africaine, est très mécontente qu'une fois de plus, elle se trouve dans une situation qui renvoie à l'époque coloniale. Et donc, elle a eu l'occasion de s'expliquer là-dessus. Mais ce qui est intéressant et qui est complètement tenu sous silence par la presse française et de l'Occident, on va dire otanien, hein, parce que finalement, qui fait la loi, c'est cette espèce d'ensemble politico-militaire, OTAN, USA et Union européenne. Et je reprends parce que j'ai pas trouvé beaucoup de sources. Enfin, on a des sources, par exemple, un remarquable et courageux site qui investigue Action. Vous faites investigueaction.org en deux mots, INVEST, plus loin Action. Effectivement, rapporte un certain nombre d'articles qui paraissent dans la presse internationale sur d'autres aspects, soit en ce qui concerne le soutien, soit en ce qui concerne effectivement le pourquoi de cette guerre menée par les Israéliens. Je lisais dans l'Humanité de... Ben c'est laquelle ? C'est celle de la fin de semaine, oui, vendredi 1er, c'est donc celui qui a le journal, le numéro qui a terminé la semaine dernière. Une colonne, alors c'est très discret, en page 13, alors qu'on aurait pu penser qu'un journal comme l'Humanité mette ça à la une, pas forcément l'ensemble de l'article, mais... évoque, alors c'est le titre, Amérique latine, une diplomatie exemplaire. En signe de protestation, plusieurs pays ont rappelé leurs ambassadeurs en Israël. C'est le cas notamment du Salvador, du Chili, du Pérou, du Brésil, de l'Équateur, qui rappellent leurs ambassadeurs en consultation. Bon, on sait que ça c'est le premier pas presque vers cette rupture. Une rupture qui d'ailleurs est de fait depuis de nombreuses années, depuis 5-6 ans, notamment depuis plomb durci, depuis l'invasion de Gaza par les Israéliens. Et c'était la rupture que le Venezuela avait entérinée, ainsi que la Bolivie. Alors, voilà ce que disent par exemple les Chiliens. Bon, le Chili est membre non permanent du Conseil de sécurité, et de ce fait, nous avons une responsabilité aussi grave. C'est une déclaration du ministre des Affaires étrangères. Pour les Péruviens, Lima, l'offensive militaire israélienne contrevient une nouvelle fois aux normes élémentaires du droit international. C'est un massacre, a de son côté réagi la présidente du Brésil, Dilma Rousseff, pour qualifier la situation. Voilà. Et puis, alors évidemment, Tel Aviv méprise ces pays-là, puisque, par exemple, le ministre fasciste Avigdor Lieberman qualifie Rousseff de nain politique, de nain diplomatique, alors, d'accord. Et on rappelle que c'est une situation qui est cohérente avec le passé de cette prise de position globale. On peut dire pratiquement tous les pays de l'Amérique latine sont hostiles à la lutte, à l'écrasement des Palestiniens, à les faire disparaître et donc avait soutenu l'idée d'un État palestinien dans des frontières reconnues par la communauté internationale, palestinien libre de se constituer comme ils l'entendent et pour dans le cadre d'une paix durable. Et il y avait ce mot, l'Humanité rappelle ce mot du président Evo Morales, bolivien, qui à l'époque, hein, c'est-à-dire 2009, plomb durci, lors de la rupture avec Israël, dénonçait à l'époque... alors lui, il dénonçait l'incapacité de l'ONU, effectivement, de faire appliquer ses résolutions. Et donc, il avait traité le Conseil de sécurité, c'est le Conseil de l'insécurité. Voilà, donc c'est important et ça devrait effectivement être largement reproduit. Il faudrait que les Européens et les Français notamment sachent que c'est pas en se réfugiant dans une vision européenne, franco-française, voire franco- ou européano-européenne, que l'on peut comprendre que effectivement et surtout faire que l'État d'Israël mette fin à ce massacre. Il y avait d'autres aspects que je voulais aborder, c'est justement sur le site d'Investig Action, c'est le site de Michel Collomb. Il reprend un article et une grande analyse de journaliste italien, je ne sais plus de quel journal c'est, mais un journal très 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 sérieux en Italie.
C'est pas l'UNIT.
Il expliquait qu'en fait, si effectivement les Israéliens veulent détruire toute tentative de création d'un État palestinien et veulent briser le gouvernement d'union nationale qui s'est mis en place, mais aussi c'est les aspects économiques tout ça c'est pour pouvoir avoir le contrôle sur le plan économique, de la même manière qu'ils contrôlent l'eau du Jourdain. Ils veulent, alors effectivement, il y a le peuplement territorial, mais il y a aussi ce pétrole-gaz au large de Gaza. Alors en fait, c'est reconnu, il y avait déjà des contrats qui étaient en train de se passer, mais avec l'arrivée du Hamas, élu démocratiquement et majoritairement à Gaza, eh bien, ça a tourné court. Et maintenant, les Israéliens veulent s'emparer des richesses pétrolières et gazières au large de Gaza, d'où aussi ce besoin de rayer de la carte l'entité Gaza comme partie... partie prenante du peuple palestinien. Et enfin un mot pour trouver ridicule, sinon voire dérisoire, ridicule et même offensant. La semaine dernière, Hollande a dit on débloque 8 millions pour l'aide humanitaire au Gazaoui. 8 millions pour le Gazaoui. En fait, c'était un moment où, effectivement, il continuait à considérer que ce qui se passait là-bas, c'était normal, les Israéliens avaient le droit de se défendre. Bon, on en parlera peut-être plus tard, tu reviendras peut-être là-dessus, mais effectivement, la position française a été obligée d'évoluer après les massacres et surtout les cibles quand il s'agit d'écoles où sont réfugiés des Gazaouis. Et donc, on a un Fabius aujourd'hui qui parle carrément de massacre. Bon. 8 millions, il a dit, voilà, on envoie 8 millions. Et ça préfigure la politique que mène l'Union européenne depuis toujours, c'est-à-dire Israël casse tout, tue tout, et ensuite l'Union européenne paye les réparations. C'est comme ça que ça se passe depuis des décennies, contre toutes les résolutions de l'ONU. Et enfin, je rappelle que donc il y a eu cette déclaration à la Cour pénale internationale, une plainte déposée à la Cour pénale internationale contre Israël pour crime de guerre et crime contre l'humanité. Et avec ce qui se passe ces jours-ci, c'est une plainte qui devrait normalement... On peut dire qu'il y a encore des choses normales concernant Israël. Devrait trouver rapidement à être prise en compte par la Cour pénale internationale.
Oui, si un veto ne vient pas s'y opposer.
Voilà ce que j'avais. Tu as sans doute d'autres informations.
Oui, on peut rappeler le fait que l'école qui a été bombardée aujourd'hui, c'est la troisième école de l'ONU, des bâtiments de l'ONU. Qui sont visés là, avec chaque fois une dizaine de morts, des enfants, des femmes, des civils en tout cas. Et c'est ça aussi qu'il n'y a pas que la France qui s'est mise en colère, Ben Ki-moon aussi, au niveau de l'ONU, parle de crimes de guerre dans ses attaques contre les bâtiments de l'ONU. Mais bon, la situation en moins perdure. On ne voit pas aujourd'hui ce qui va l'arrêter. Et pourtant, il va bien falloir qu'elle s'arrête. C'est une espèce de guerre d'usure entre le Hezbollah, qui semble n'avoir pas épuisé toutes ses réserves à la fois d'armes et de combattants, et puis les Israéliens, qui ne dévoilent pas la stratégie et l'objectif, mais qui la poursuivent, même s'ils investissent au nord, ils investissent un peu plus au sud sur Rafah. Donc une situation extrêmement préoccupante. On dira un mot aussi des manifs, puisque à Paris, il y avait une vingtaine de milliers de personnes qui ont défilé dans le calme, on peut dire, pour en soutien au peuple palestinien. Et à Lyon, c'était de l'ordre de 2000 personnes aussi, samedi, qui ont manifesté.
D'ailleurs, des manifestations, il y en a partout en Europe, et beaucoup plus puissantes de Londres à Istanbul, beaucoup plus puissantes même que celles de Paris. Et c'est le blackout total. L'information, pas d'image, pas d'information dans la presse audiovisuelle, pas d'information dans la presse écrite.
Voilà, on va aborder un autre sujet. Il y a plusieurs choses. Il y a la Libye avec les milices qui continuent autour de Misrata de s'affronter. La guerre, on peut presque parler d'une guerre civile quand même entre les différentes milices qui s'étaient appropriées des secteurs que l'État officiel veut récupérer. Et donc, il y a toujours des affrontements avec des morts. 3 ans après la révolution, les groupes armés continuent de dominer le pays. Une révolution donc qui a été mal préparée, mal gérée, mal organisée et mal prise en main. C'était assez prévisible d'ailleurs qu'on introduirait plus de chaos que d'ordre et d'organisation dans le pays. Mais voilà, la situation reste extrêmement...
Oui, comme tu dis, il y a d'abord effectivement l'appropriation des richesses. Et puis, il y a effectivement ce clivage entre l'aile dite modérée des islamistes, si tant est que ça existe, et qui ont récupéré les rescapés de l'époque Kadhafi, et qui veulent absolument tenir l'aéroport de Tripoli, et qui sont attaqués par une composante djihadiste qui veut effectivement voir autrement l'avenir de la Libye.
Ouais,
et avec ces millions, je crois que c'est 90 millions, c'est ça, de litres, c'est des litres de pétrole qui flambent depuis plusieurs jours dans les entrepôts, je crois que c'est à Tripoli.
Oui, ils ont fait sauter un immense réservoir, et donc, catastrophe économique aussi. Enfin, Kadhafi tenait tout ça sous sa main de fer, mais il se ménageait les différentes milices par des avantages accordés aux uns et aux autres, tout en gardant la plus grosse part du gâteau pour lui. Maintenant, tout cela est déstabilisé, et c'est les affrontements entre les sous-groupes. Voilà pour ce qu'on pouvait dire pour la Libye aujourd'hui.
Oui. À propos de la Libye, c'est dans le numéro d'août du Monde diplomatique, il y a toute une page par Ping, l'ancien, je ne sais pas si c'était le président, mais on va dire le responsable principal de l'Union africaine. À l'époque, justement, il était responsable à l'époque de Kadhafi, et il a essayé de jouer. L'Union africaine avait tenté d'empêcher le massacre final, c'est-à-dire jusqu'à l'assassinat de Kadhafi. Et il raconte qu'en fait, il y avait un accord, c'était pratiquement fait, et même Kadhafi était prêt à s'exiler, contrairement à ce qu'on a laissé souvent croire en Europe. Il était prêt à quitter le pouvoir, et donc se mettrait en place une transition, et c'était pratiquement acquis. Mais comme par hasard, d'ailleurs c'est un peu comme ce qui s'est passé en Ukraine, comme par hasard, quand il y a un compromis qui semble possible, survient le lendemain une opération militaire. À l'époque c'était l'OTAN, là c'est encore sans doute, si on fait le rapprochement avec l'Ukraine, c'est également sans doute en sous-main l'OTAN et les Européens qui avaient cassé les tentatives de compromis du 20 février en Ukraine.
Comment du virus Ebola, c'est pas mondial pour le moment, il y a quand même 700 morts qui étaient circonscrits dans les régions de la Guinée, du Libéria, de la Sierra Leone, mais qui a tendance à s'exporter et avec des gros problèmes pour juguler la progression du virus, sachant que les gens malades ne viennent plus vers les médecins. Il y a un problème de communication aussi. Ils se méfient énormément et du coup... Alors on a des gens qui sont... Le virus est susceptible d'être propagé en Europe puisque il y a de temps en temps un soupçon de quelqu'un qui meurt en arrivant en Europe d'avion. On pense que c'est ça. Il y a une histoire d'un médecin américain qui a été rapatrié. Bref, il y a aussi des gens qui travaillent au niveau d'un vaccin. Ils en sont à des essais pour lutter contre cette maladie contre laquelle il n'y a pas de remède une fois qu'elle est suffisamment engagée. Fièvre et vomissements sont les principaux symptômes de ce nouveau fléau. Un autre fléau, c'est les fonds vautours qui, là, foutent la pagaille pour rester poli en Argentine. L'Argentine de Kirchner qui a décidé de ne pas se laisser arnaquer par des gens qui avaient, au temps de la crise, racheté des créances à 4 sous qui valaient plus rien et qui aujourd'hui veulent valoriser ces créances au prix fort. C'est pas toute la dette argentine, c'en est à peine 8%, mais les Américains qui sont là derrière et leurs avocats mettent la pression et veulent mettre les Argentins en difficulté avec ça. C'est à peine croyable comme ça que des gens qui sont des arnaqueurs organisés puissent avoir le droit international, brandir le droit international en leur faveur, et que ça n'indigne pas grand monde, à part quelques Zulus bernus comme nous, dans la sphère, et puis les gens d'attaque et autres mouvements un peu lucides sur les magouilles des capitaux et des spéculateurs.
Oui, d'ailleurs, les pays latinos, on a parlé à propos des divergences profondes avec les politiques occidentales au Moyen-Orient, mais on sait qu'aussi, sans être en rupture avec les institutions internationales monétaires, que ce soit Banque mondiale ou FMI, il n'empêche que les pays latino-américains se mettent en place des outils parallèles au Fonds monétaire international et donc à la Banque mondiale, des outils parallèles pour contrer les contenus spéculatifs de ce qui produit la pauvreté et les dettes à l'échelon planétaire notamment, mais notamment chez les latinos. Et effectivement, ça rejoint ce que tu disais à propos de l'Argentine.
Voilà, disons un mot aussi de ce premier sommet Afrique-USA, c'est pas rien quand même, 46 chefs d'État dirigeants africains, plus un noir dirigeant américain. C'est le premier sommet à Washington. Il semblerait que les Américains se remettent à s'intéresser à l'Afrique, après s'être rendu compte qu'à défaut de s'en occuper un peu, les Chinois, quant à eux, avaient beaucoup démarché et entrepris du commerce avec l'Afrique. Donc c'est un tournant pour les Américains qui non seulement s'intéressent à l'Asie, ça on le savait, mais qui là ont l'air de vouloir revenir vers l'Afrique. C'est pas forcément une très bonne nouvelle pour les Africains, mais enfin, en tous les cas, il y a du monde qui s'est dérangé. Quoi. 3 jours le sommet. Voilà, en dirant un mot du Portugal aussi, qui sauve une banque privée, on était sur les spéculations là aussi, qui renfloue une banque privée qui s'appelait Expedito Santo, 4,4 milliards, avec 2 opérations, d'une part une séparation de ce qu'ils appellent les actifs toxiques, autrement dit les sommes que cette banque avait devait à des fonds vautours, rapaces, avec des taux prohibitifs. Donc on va mettre dans une nouvelle structure, je ne sais pas qui la financera, et puis on crée une nouvelle banque qui va protéger les clients privés de la banque, mais ça pourrait bien que ces 4,4 milliards qui vont être injectés dans la nouvelle banque soient en fait puisés dans le nouveau dispositif que l'Union européenne a mis en place de soutien, secours aux banques en difficulté. Bonne nouvelle pour les Portugais qui craignaient de voir leurs économies s'envoler, comme les nôtres. Et aux USA aussi, oui, on aurait pu le dire tout à l'heure, Obama, ça a un peu surpris tout le monde, mais pas complètement, a reconnu que les militaires américains, sous Bush, pas sous lui, pas sous son mandat à lui, ont torturé, entre autres à Guantanamo. Et il fait amende honorable sur des pratiques qu'il déclare inacceptables. Bon, c'est tout à son honneur quand même, parce que c'est pas ses prédécesseurs le dernier qui l'aurait fait. Ceci dit, s'il se donne autant de mal pour redresser un petit peu l'image des États-Unis, c'est aussi parce que des documents vont être déclassifiés, autrement dit que les pratiques de torture de l'armée américaine allaient apparaître au grand jour dans des documents publiés. Donc Obama prend un petit peu les devants pour ne pas être pris de court par ces documents. Alors il fait des contorsions pour ne pas dire trop de mal de Bush et de ses compères en disant que la situation n'était pas la même et que il faudrait se remettre dans le contexte pour mieux comprendre, oui. N'empêche qu'il reconnaît que des pratiques non compatibles avec un État républicain ont été mises en œuvre par la CIA et les armées américaines. Autre sujet, Robert, ou là-dessus, je ne sais pas.
Oui, une semaine qui va être consacrée à un rappel tragique et historique, c'est-à-dire la commémoration des bombardements d'Hiroshima et Nagasaki. Donc pratiquement partout sur la planète, il y aura des manifestations dans cette période du 6 au 9 août. Et c'est l'occasion de... Enfin, ça sera l'occasion de rappeler que la demande d'abolition des armes nucléaires, hélas, ne progresse pas. Il y a ce fameux traité d'interdiction, en fait, qui fait que une dizaine de pays s'arrogent le droit d'avoir l'arme nucléaire. Et tente de fermer la porte. On voit bien comment effectivement tout le débat autour de l'Iran, qui d'ailleurs déclare qu'il ne veut pas d'armes nucléaires, il veut faire des centrales nucléaires. Bon, on n'en sait rien réellement, mais toujours est-il que on voit pas pourquoi les Iraniens n'auraient pas, dans la mesure où effectivement le désarmement nucléaire n'est toujours pas en cours. Il y avait des premières tentatives de réduction dérisoire signée entre les Russes et les Américains. Mais c'est peut-être pas forcément... Bon, eux, ils se neutralisent. Mais c'est les 7 ou 8 autres pays détenteurs de l'arme nucléaire qui posent naturellement le plus gros problème.
Voilà, un mot de M. Juncker, le nouveau président de la Commission européenne, qui va en Grèce. Il va en Grèce pour leur expliquer comment développer l'emploi, comment développer l'équité sociale. À mon avis, il a surtout des compétences pour leur expliquer comment faire de la Grèce un paradis fiscal. C'est sa spécialité. Il l'a fait pendant 20 ans au Luxembourg. C'est pas forcément une bonne nouvelle pour les Grecs, qui vont sûrement se voir imposer des restrictions à un titre ou à un autre. Voilà, tu voulais dire autre chose, enfin une pause musicale ?
Oui, je crois que le moment est venu.
Sur fond d'actualité internationale, il se trouve que notre gouvernement, depuis la fin de la semaine dernière, est parti en vacances. Donc, nous n'avons plus de gouvernement. Comment faisons-nous pour survivre sans gouvernement ? Marc Augeret vous donne des éléments de réponse.
À chaque coin de rue, le travailleur surpris, sur l'affiche se rue, des candidats de Paris. On voit beaucoup de promesses, écrites sur le papier, mais le peuple ne vit pas de messe, alors ça le fait crier. Le gouvernement de Ferry est un système pourri, cette floquée de constance sont aussi dégoûtants. Carnot ni Boulanger ne pourront rien changer, pour être heureux vraiment, faut plus de gouvernement. Le gros ventruc en Grèce, le suffrage universel, vient vous battre la grosse caisse, comme Monsieur Géraudel. Il vous promet tout rose, mais quand il est élu, ça n'est plus la même chose, il vous tourne le cul. Certains énergumènes, débitants de discours, vous redisent les rengaines qu'on entend tous les jours. Moi je suis un homme intègre, moi je suis un érudit, mon copain est intègre, mais le populo leur dit. Gouvernement de Ferry est un système pourri, cette floque et le constant sont aussi dégoûtants. Carnot ni Boulanger ne pourront rien changer, pour être heureux vraiment, faut plus de gouvernement. Même des socialistes, membres de comités, soutiennent des fumistes qui se portent députés. Y a pas à s'y méprendre, qu'ils soient rouge, bleu ou blanc, il vaudrait mieux les pendre que leur foutre 25 francs. Tu leur paies des ripailles, toi peuple souverain, et lorsque tu travailles, à peine as-tu du pain. Ne sois donc plus si bête, au lieu d'aller voter, casse-leur la margoulette, puis tu pourras chanter. Le gouvernement de Ferry est un système pourri, cette floque et le constant sont aussi dégoûtants. Carnot ni Boulanger ne pourront rien changer, pour être heureux vraiment, faut plus de gouvernement. De toute cette histoire, voici la conclusion. L'électeur, c'est notoire, n'a pas toute sa raison. Je n'aime pas le fataliste, je n'ai ni foi ni loi. Je suis abstentionniste, ami, voici pourquoi. Gouvernement de Ferry est un système pourri, cette floque et le constant sont aussi dégoûtants. Carnot ni Boulanger ne pourront rien changer, pour être heureux vraiment, faut plus de gouvernement.
Le Centre de Documentation Libertaire, la librairie libertaire La Griffe et les Amis de La Griffe organisent les 22 et 23 novembre 2014 le 4e Salon des Éditions Libertaires. Ce salon se tiendra à la Maison des Associations de la Croix-Rousse dans le 4e arrondissement de Lyon.
Colonialisme !
À bas !
Colonialisme !
À bas !
De nombreux éditeurs seront présents pour diffuser le meilleur de la critique sociale, des idées et pratiques émancipatrices du passé, actuel et à venir. Des films étonnants, des débats détonnants n'attendent que vous.
Capitalisme !
À bas !
Capitalisme !
À bas !
À cette occasion, durant tout le mois de novembre, libertaires, ennemis de l'ordre et de l'autorité, critiques de l'ordre établi, militants, artistes engagés ou dégagés, rebelles avec ou sans cause, se regrouperont dans le cadre de novembre, on s'installe partout. Projections, débats, théâtre, musique, performances, expos, ateliers, repas s'épanouiront à Lyon. Cet automne, le Salon Libertaire sera aussi sur les ondes de Radio Canu, émission spéciale et diffusion en direct du Salon les 22 et 23 novembre. Plus d'informations sur le site internet lagriffe.net et auprès de la librairie La Griffe au 04 78 61 02 25 et bien sûr sur radiocanu.org. Voilà, vous avez le mérite d'écouter Radio Canu, de nous écouter, ça mérite bien des petits cadeaux. Eh bien, ça, c'est un petit cadeau, c'est un inédit, ce qui est ce qu'on appelle un jingle d'annonce pour le Salon des éditions libertaires. Vous l'avez eu ce soir en première diffusion dans le cadre de ce Canu Info. Il y en aura d'autres, mais ici, là, mais on a encore le temps, parce que vous l'avez bien compris, c'est au mois de novembre. 102.2 MHz, la plus rebelle des radios, le Canu Info de ce lundi 4 août 2014, et nous poursuivons avec la rubrique internationale avant de nous offrir une petite rubrique culturelle en termes de bilan d'Avignon. Mais la rubrique nationale. Alors Robert, tu arrives à survivre sans gouvernement depuis samedi ?
Oui, oui, c'est ce que je me souvenais que la Belgique a vécu sans gouvernement pendant pas mal de temps, mais effectivement, elle avait une administration, elle avait tout ce qu'il faut. Que les États dits modernes, ils ont tout ce qu'il faut. Ils peuvent se passer des politiques pour continuer à faire fonctionner un État. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que Hollande était à Liège aujourd'hui, et peut-être qu'en même temps, dans la coulisse, il s'est peut-être renseigné sur comment gouverner sans être là. Et je pense pas, en fait, il était surtout à nouveau festoyé sur les décombres de la guerre de 14-18. Bon, oui. Il en a profité pour une fois de dire un petit mot pour penser que c'était pas bien ce qui se passait à Gaza. Mais en fait, il est heureux, là, parce que il rencontre plein de monarques. On a vu comment l'idylle avec la reine d'Angleterre, ça avait été un grand moment il y a quelques semaines. Là, mais c'est avec la monarchie belge qu'il fricote, là, c'est aujourd'hui.
Mais avec les Allemands, il a eu moins de succès, voilà, hein. Moins de succès,
c'est
parce
un
que
homme qui veut instaurer sans doute la république monarchique.
Merkel n'a pas répondu à son invitation samedi, hein, au Hartmann-Villerkopf, là, en français, le Grand Armand, il était tout seul. Le Grand Armand, c'est un lieu de bataille dont on ne parle pas beaucoup, mais quand même 30 000 morts, hein, pour se prendre un gros morceau de caillou à 1500 mètres d'altitude, ça a duré des semaines. Et il y avait une commémoration, puisque Hollande, on l'a vu, est atteint de commémoratite aiguë. Je ne sais pas s'il y a des médicaments pour ça. Et il en profite en même temps, peut-être c'est pour ça que Merkel n'était pas là, pour balancer pas mal sur ses amis allemands, quand il laisse entendre que ses ministres en même temps sont en vacances, donc il en profite. Quand il laisse entendre que la France est menacée de déflation, en clair, ça veut dire qu'il prévoit que les résultats économiques de l'automne, septembre-octobre, seront extrêmement mauvais. Et que ce qu'il attend, c'est que les Allemands relancent un petit peu l'économie européenne, française en particulier. Et pour le moment, ils ont des oursins dans les poches. Ça fait déjà quelques mois, que c'est quelques années même que c'est comme ça. Et donc, il y a une pression qu'il essaie de mettre, à la fois sur nous, en nous prévenant que ça va être encore plus dur qu'avant, et puis sur les Européens, en laissant entendre qu'il y a une menace d'éclatement de l'Union européenne si les Allemands ne sont pas un peu plus souples et acceptent pas de partager les richesses avec d'autres, quoi. Voilà comment se mélangent les commémos et les visions de politique à moyen terme dans le pays. Autre sujet, si on peut dire, on a à Calais, où il y a beaucoup de gens qui sont de plus en plus d'émigrés qui arrivent, en particulier des Africains de l'Est, Et depuis le 1er janvier, on a interpellé 7500 personnes. Quoi. Et là, il est question d'évacuer un camp forcément insalubre, mais pour les gens qui sont là et qui attendent de pouvoir passer en Angleterre, c'est ce qu'ils souhaitent pouvoir faire en attendant d'y arriver. Un camp de 1000 personnes qui seraient évacuées dans les jours prochains, donc il y a une mobilisation autour de ça. Dans les mauvaises nouvelles de l'été, à Grigny aussi, le bidonville installé depuis un an, après l'évacuation de celui de Riche-Orangis, donc pourrait être lui aussi évacué dans les jours qui viennent. Et puis, dans les mauvaises nouvelles de l'été, qu'est-ce qu'on avait d'autre encore ? Ah oui, les associations privées, enfin ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire, hein, tous les gens qui travaillent un peu dans le social, étaient jusque-là exemptés d'une taxe de transport, taxe assise sur les entreprises dans les départements. Et il se trouve qu'il y a une décision gouvernementale, ça faisait 50 ans que ces associations qui ne sont pas à but lucratif étaient exemptées, et bien les socialistes veulent remettre ce versement de la taxe de transport s'appliquant à ces entreprises qui forcément, de par leur statut et leur vocation, ont déjà des difficultés à boucler leur budget, et bien on vient encore taper sur elles. Voilà, qu'est-ce que il faut qu'on annonce aussi les nouveautés du 1er août. Eh bien, bon, ça c'est pas... Le livret A passe de 25 à 1%, autrement dit, on va bientôt le mettre en négatif. On va bientôt être taxé quand on a un livret A, au train où vont les choses, si on suit Hollande dans son idée de déflation. La SNCF, il y a eu un petit coup de frein aux augmentations. L'électricité aussi, elle devait augmenter de 5%, ça ne se fait pas. Mais rassurez-vous, ou plutôt inquiétez-vous, en octobre, il y aura à peu près 30 euros de rattrapage pour les mois de juillet à juillet 2012 à 2013. Le gaz a baissé de 1,8%. On fait une baisse pendant l'été parce que personne n'en utilise et il va réaugmenter dès l'automne. Donc il n'y a pas vraiment de bonnes nouvelles. L'encadrement des loyers dans Paris, Lyon, Marseille est reconduit. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi ? Ah oui, le permis de conduire devrait être un petit peu amélioré. 3 minutes de souffrance en moins pour les candidats. L'examen durera 32 minutes au lieu de 35. Ça permettra de passer 13 candidats au lieu de 12 par jour. Et pendant ce temps-là, que fait le Crédit Mutuel ? Eh bien, il se goinfre, le Crédit Mutuel. C'est une banque associative. 1,4 milliard de bénéfices, plus 39% en un an. Mais où a-t-il donc prélevé tous ces bénéfices sur les petits épargnants et sur ses clients, forcément ? Robert, avais-tu d'autres sujets ?
J'avais relevé les déclarations... finalement, qui ne surprendront que ceux qui le veulent bien, de Marine Le Pen, qui veut se porter au secours de la LDJ, la Ligue de Défense Juive, au prétexte que, finalement, les Juifs se sentent effectivement en insécurité. Alors, précise, c'est à cause de la poussée islamique en France, en Europe et au Moyen-Orient, que les Juifs se sentent en insécurité. Donc, elle est prête à faire un pas vers disons, le groupement le plus fascisant de ceux qui prétendent défendre les Juifs de France en s'adressant directement à eux pensant que ce serait Val, ça aurait bien tort de la dissoudre.
Ouais, elle se refait une virginité à bon compte, là. Hein, un mot des ripoux, oui, j'ai oublié de dire là-dessus. Alors, l'histoire des 50 kilos de cocaïne qui disparaissent d'un coffre-fort super protégé, bah, finalement, évidemment, c'est un flic qui, semble-t-il, les a piqués pour les revendre. Comme quoi, faut-il, en doutiez-vous, les flics ne sont pas toujours des gens très honnêtes.
Oui, d'ailleurs, ce soir, Cazeneuve, le ministre, il annonce un audit de cette partie de la brigade mondaine Ça veut dire que on risque d'aller vers un immense scandale. Le petit bonhomme de brigadier, là, il est sûrement pas tout seul dans cette affaire.
Voilà, on fait notre introduction musicale, c'est pas une pause, pour parler du festival d'Avignon.
Oui, ça peut paraître incongru peut-être après les choses tristes que l'on raconte, mais je crois que c'est nécessaire à l'équilibre.
Ce festival, écoutez donc les comédiens, les saltimbanques, les poètes, ce sont souvent des gens honnêtes qui te font de la vie comme une fête.
Voilà, alors Robert, que ne nous as-tu pas encore dit sur le festival OFF ?
La semaine dernière, on avait surtout pris le temps de parler du festival IN, enfin cette grande construction issue de la volonté de Villard et puis d'une époque où on voulait faire sortir la culture du ghetto vers des classes moyennes et des classes supérieures instruites, parce que c'était aussi dans la continuité du Conseil national de résistance, c'est-à-dire faire une autre France plus sociale et où à la culture pouvait accéder beaucoup plus de gens que ça n'était le cas. D'ailleurs, ça reste encore le cas, même s'il y a des progrès qui ont été faits. Et ça a été aussi, la semaine dernière, l'occasion d'évoquer effectivement ce tournant, parce que c'est un tournant. Avec l'arrivée d'Olivier Py à la tête du festival IN d'Avignon. Alors pour la petite histoire, on rappellera que Olivier Py avait été débarqué du théâtre de l'Odéon par Sarkozy. Et que finalement, devant la protestation générale, on l'avait repêché et envoyé à Avignon, où se terminait effectivement le mandat des deux responsables de l'époque, qui eux n'étaient pas des gens certes très cultivés, mais c'était plutôt, on va dire, des hauts fonctionnaires d'État, et qui, avaient tant bien que mal géré, mais en s'appuyant sur le concours de créateurs théâtraux au cours de ces dernières années. Là, donc, on m'a expliqué qu'Olivier Py donc, disposait du pouvoir que lui confère à la fois ses qualités d'auteur, de comédien, de réalisateur, enfin, il cumule à peu près toutes les fonctions, mais pas d'une manière ostentatoire, et c'est sans doute ce qui peut faire que ça y réussira, et notamment, il a réussi dans un contexte difficile, qui était le combat mené par les intermittents et les précaires dans Avignon, comme dans tous les festivals de France, et ça continue d'ailleurs avec un degré beaucoup moindre, parce que maintenant,
tu devais parler du festival OFF, là, t'en es encore dans le IN.
De militants pour monter au...
Tu m'entends ? Non, visiblement, il ne m'entend pas, donc il cause tout seul.
Pour dénoncer l'accord intervenu et signé le 22 mars dernier. Voilà, donc à côté, alors effectivement, avec un personnage comme Olivier Py, le OFF peut se poser des questions. Il va dire finalement, voilà un vrai saltimbanque, et qu'est-ce qu'on voulait faire quand on a créé le OFF ? Enfin, ils sont presque plus là, notamment son principal créateur, c'est-à-dire André Benedetto, est décédé. On a fêté d'ailleurs cette année les 5 ans de sa disparition. C'était à la fois un lieu pour contester la culture officielle, parce qu'effectivement, elle devenait de plus en plus officielle, malgré la volonté de Villard et des autres. Bon, aujourd'hui, on a à nouveau un saltimbanque, au bon sens du terme, à la tête du festival, qui en plus même s'il se déclare pas de gauche, mais toute son idéologie personnelle l'amène à aller vers le peuple. Et ça, effectivement, ça peut être quelque chose que d'ailleurs Le Hoff lui-même l'avait abandonné en croulant sous l'avalanche. Parce que finalement, Le Hoff, c'est quoi ? C'est plusieurs centaines de petites compagnies qui débarquent de l'Hexagone et au-delà, et qui viennent peut-être tester, et puis dire voilà nous ce qu'on fait dans notre région, dans notre ville, petite ville souvent, et d'ailleurs je donnerai tout à l'heure certains noms de villes qui ont envoyé d'où viennent ces compagnies qui étaient en Avignon. Alors, est-ce que Le Hoff est encore aujourd'hui un théâtre de contestation, disons de l'establishment? Est-ce que Le Hoff est simplement une autre manière de faire de la décentralisation? Et d'ailleurs, dans son intervention, le président de l'association Avignon Hoff, Greg Germain, laissait bien entendre que, d'ailleurs il le disait depuis plusieurs années, eh bien, on réfléchit à savoir comment va évoluer le festival Hoff avec son millier de son plus de milliers de spectacles et ses plusieurs centaines de compagnies qui sont présentes au mois de juillet. Et d'ailleurs, je reprends ce que disait Greg Germain, donc président de l'association Avignon Hoff. La refondation que nous avons entamée il y a 10 ans doit certainement être repensée. Ce fait culturel, ce grand rassemblement qu'est le Hoff, doit être revu d'une manière ou d'une autre, pas seulement pour nous, mais par l'État, les collectivités et la ville entre autres d'Avignon, depuis 5 ans, en réclamant la présence du ministère de la Culture. Ce que certains ont toujours pris pour une demande de subvention, et donc ils contestent, si on veut que le ministère de la Culture soit là, c'est pas pour simplement qu'il lui demande des sous. C'est cette dynamique que nous voulons initier, une meilleure articulation entre le moment off à Avignon et le travail à l'année sur le territoire, c'est-à-dire cette dispersion de ces centaines de petites compagnies. Souvent une compagnie c'est 2-3 personnes, c'est même des fois une personne, et qui viennent se montrer en Avignon en disant voilà ce que je fais dans mon coin, voilà ce que je fais dans mon coin, voilà ce que nous faisons dans notre coin. Et effectivement, ça mérite peut-être d'être repensé. D'où cette idée de mettre autour de la table les collectivités territoriales, les agences publiques de diffusion, etc. Alors évidemment, beaucoup de compagnies sont contre ce projet d'introduire le loup dans la bergerie, hein, c'est-à-dire le ministère de la Culture, parce que on sait très bien comment ça se passe en France. Il y a toujours à Paris des centralisateurs forcenés qui, quelles que soient les directives politiques qu'on leur donne, finalement, auront une vision de directive de haut en bas, et finalement emprisonneraient tout le tissu des compagnies dans l'Hexagone dans un système où non seulement elles ne se retrouveraient plus, mais en plus produiraient peut-être à terme, et c'est la grande crainte, c'est-à-dire ça fait partie du débat, c'est-à-dire créerait le numerus clausus, c'est-à-dire qu'on va commencer à dire stop, il y en a assez, et il faut trouver des critères pour sélectionner. Alors là, pour l'instant, c'est peut-être démagogique, et d'autres disent, mais non, de toute façon, c'est démagogique, la situation actuelle, on ne peut pas continuer comme ça, et donc un jour ou l'autre, il y aura de fait un numerus clausus, le tout, c'est simplement qu'il revête des formes démocratiques, ce qui n'est pas encore prouvé. Pour attester de cette présence très très dispersée de ce que font toutes ces petites compagnies, pour tout dire, hein, j'ai vu une quinzaine de pièces, donc ça peut paraître ridicule, une quinzaine de pièces sur sur le je sais pas en tout combien, peut-être un millier, bon, 15, c'est ridicule. Mais c'est évident que de toute façon, c'est évident que aucun journaliste ne peut prétendre avoir vu la totalité des choses. Alors par exemple, les grands journaux locaux comme Vaucluse Matin ou La Provence, bah, tous les jours donnaient un compte-rendu très bref de 5 ou 6, 7, 10 des fois pièces jouées dans le off. Sans trop savoir d'ailleurs si vraiment il y avait des journalistes qui étaient allés les voir, mais il y a une documentation, donc il suffisait de réécrire la documentation pour donner l'impression que la pièce avait été vue. Alors moi je reviens, parce que c'est une compagnie qui est à Arles, et qui c'est le théâtre du Maquis à Arles, bon c'est la région d'ici, et ils ont toujours des spectacles magnifiques, et cette fois-ci ils avaient fait un spectacle poétique autour d'Apollinaire et de l'alcool. Bon, l'alcool c'est un prétexte, hein. C'était pas pour faire un théâtre de dénonciation de l'alcoolisme, c'était simplement parce que c'était montrer comment effectivement les aides que les poètes trouvent, eh ben c'est l'alcool, c'est le premier degré, il y en a d'autres plus qui peuvent poser plus de problèmes. Et Apollinaire n'a pas échappé à ça. Mais c'est une très belle pièce. Là j'ai vu, alors là ça a été des équipes de Paris. Alors les équipes de Paris sont les plus nombreuses. Et il y avait par exemple 5 pièces courtes comiques de Jean Tardieu. Alors Jean Tardieu, on connaît un peu, bon c'est de l'humour, un peu c'est surréaliste, c'est très beau. Ça c'était monté par une équipe parisienne. Là j'ai une équipe de Saône-et-Loire, eh ben voilà, juste Saône-et-Loire au-dessus de Lyon, et qui a mis en pièce, alors qui a mis en scène la philosophie enseignée à ma chouette, et c'est des textes d'Yves Cusset. Alors d'ailleurs moi je recommande la lecture des textes de Yves Cusset, philosophie et bon, qui ne se prend pas pour le centre du monde, à la différence par exemple d'un Michel Onfray qui s'est vu encore cet été sur France Culture. Et donc c'est des gens de Saône-et-Loire qui ont mis ça en place. Alors voilà, c'est pas issu d'une grande ville. Là j'ai d'autres gens qui viennent, je recherche le nom, ce sont des gens d'Isère. Ben, l'Isère c'est les voisins lyonnais, là. Alors, c'est pourvu qu'il nous arrive quelque chose. C'est une compagnie, le chat du désert, et qui mettait en scène des textes à partir aussi d'une recherche sur des auteurs, et notamment sur ce qu'avait écrit un grand comédien, Philippe Torbeton. André Benedetto, je n'y reviens pas, j'en ai parlé déjà. André Benedetto, eh bien oui, c'est Avignon. Avignon, mais là c'était le théâtre de la Passerelle qui est de Limoges et qui est venu monter du Benedetto au théâtre des Carmes même, et ça s'appelait l'acteur loup. Un autre acteur qu'on a bien connu à Avignon, c'est un autre auteur, c'est Vajdi Mouawad, un obus dans le cœur. Alors c'est un libano-québécois. Lui, c'est une compagnie des Pyrénées-Orientales, la compagnie Gérard, Pyrénées-Orientales, un obus dans le cœur, où Mouawad rappelle aussi, à travers l'intimité familiale, ce qu'était la guerre au Liban, voici plusieurs décennies. Je terminerai avec Dupoyer, parce que Pierre Dupoyer, d'ailleurs, que certains Lyonnais ont peut-être connu, parmi les plus anciens, et qui présente Avignon en permanence, mais qui est installé à Avignon, comme le théâtre de Benedetto. Et elle a présenté plusieurs spectacles, Pierre Dupoyer. Elle est d'ailleurs secrétaire de l'association, Festival Off et compagnie. Et donc là, c'était un spectacle que j'ai vu autour de Tchaïkovski. Alors qu'il y a un texte qu'elle écrit, elle écrit elle-même ses textes. Voilà, j'en ai une toute petite dernière. C'est des gens du Bouches-du-Rhône, une petite ville qui s'appelle Fuseau, une compagnie. Je cherche la troupe du brigadier, une compagnie la troupe du brigadier, et le titre de la pièce c'était Tu mendiras tant, mais du verbe mendier, et c'est l'histoire d'un comédien qui est écarté parce qu'il ne réussit pas et qui finalement fait lui aussi un peu le point sur qu'est-ce qu'être comédien aujourd'hui.
Bien, bah écoute, il faut en rester là parce qu'on arrive à l'heure de la fin de Scanu Info qui sera rediffusée demain matin à 8h avec, vous l'avez peut-être remarqué, un fâcheux break technique sur la musique, mais on terminera donc le Scanu Info sans musique. Bonne soirée, rendez-vous lundi prochain et puis ne quittez pas l'antenne.
Ouvre vos livres, c'est...